Si vous prononcez le nom Jean-Michel Dufaux, évidemment, vous allez tout de suite l'associer au voyage avec son site, évidemment, Siège Hublot, mais aussi toutes les chroniques qu'il a faites, les livres qu'il a écrits, entre autres, sur Toronto. Et c'est pour ça que j'étais intéressée à avoir l'opinion de Jean-Michel, qui est chroniqueur avec nous tous les lundis, au sujet de la reprise dans le domaine du tourisme. Parce qu'on sait, évidemment, c'est une évidence de le dire, qu'avec la COVID, on voyage plus comme avant. On voyage plus du tout. On découvre le Québec et ses beautés, ou on découvre le Canada et ses beautés. Mais comment on fait justement pour faire revivre l'industrie du tourisme? On va en parler avec Jean-Michel. Jean-Michel, bonjour.
Bonjour Sophie, bon lundi.
Écoute, comment on fait quand on est comme toi un amoureux des voyages pour vivre avec cette nouvelle réalité de la COVID qui fait qu'on ne peut pas aller au-delà des frontières puis qu'il faut troquer Venise contre Venise en Québec?
Exactement. Je pense que il y a très peu de bons côtés à cette horrible pandémie, mais je pense que ça a quand même forcé les gens à redécouvrir notre belle province et notre pays, mais surtout le Québec. Et je pense que on a découvert des coins. Il y a des coins cet été, on sait, qui ont été très populaires. Le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie, la Côte-Nord. J'ai un autre appel en même temps. Donc, le bon côté de ça, c'est que cet été, on a eu des très bons chiffres au niveau du tourisme du Québec. Par contre, c'est quand même en deçà des chiffres normaux, par exemple, pour les villes de Québec et de Montréal. Montréal souffre énormément. Et c'est aussi au niveau économique vraiment difficile. C'est presque 2 millions de Canadiens qui dépendent de l'industrie du tourisme.
C'est fou,
travaillent
hein?
De près ou de loin.
Ouais.
C'est des chiffres hyper importants. Et surtout Montréal, tu sais, c'est beaucoup, beaucoup les touristes étrangers qui aident Montréal à avoir des statistiques intéressantes, des restaurants. Même les Airbnb qu'on met souvent au banc des accusés. Je suis d'accord, moi, que quelqu'un qui a un Airbnb 12 mois par année doit payer un permis et c'est pas toujours valorisé. Si dans un syndicat de copropriété, on ne veut pas qu'il y en ait un, je comprends très bien. Mais il faut pas juste accuser Airbnb. Airbnb, ça permet quand même, des fois dans des quartiers où les gens ne sont pas là, d'amener des gens de l'argent extérieur.
Ça, c'est un bon point.
Et Oceaga, par exemple, on se vante toujours dans des chiffres extraordinaires pour le festival de musique d'Oceaga au mois d'août, qui tourne à peu près 3 jours. Le pourcentage de ces jeunes qui sont dans les Airbnb est hyper élevé. Donc, on peut pas juste dire on est content de nos chiffres, mais on veut pas savoir où ils dorment. Ça permet à des familles, des fois, à des gens qui ont un peu moins de budget parce que les hôtels du centre-ville sont chers, de voyager. Tout ça pour dire que je ne sais pas comment affronter ça. Et ce qui me fait peur, c'est évidemment cet automne. C'est-à-dire que cet été, avec le climat agréable, les terrasses, tout ça, c'est bon. Mais là, on s'en va vraiment, et ça ne semble pas se régler, on s'en va vers une année hyper difficile. Parce que quand les terrasses vont fermer, là, autant à Montréal, à Québec que dans toute la province et dans le pays à cause de notre climat hivernal, ça va être une catastrophe. Ça va être l'hécatombe. Là, et je ne sais pas comment on va régler ça. Je pense qu'il y a une autre année difficile qui est devant nous. Et ça revient à... il faut qu'on mette de l'énergie, je pense, à au moins savoir. On peut pas trouver le remède tout de suite, mais au moins savoir si quelqu'un est porteur ou non. Parce que si on des tests se font, par exemple, à l'aéroport ou tout ça, si on peut permettre les voyageurs étrangers de venir ici, mais d'être certain qu'ils n'ont pas la COVID, ça permettrait peut-être à l'industrie tranquillement de reprendre des forces. Parce que sinon... C'est tout ce qui connecte aussi à ça, c'est les restaurants,
absolument.
Les bars et tout ça. Donc, c'est vraiment une situation très, très difficile. Et là, il reste un mois, je pense, parce qu'après ça, là, aller à l'intérieur, ça va être difficile. Les places sont limitées, les terrasses sont fermées. Alors, c'est vraiment, vraiment une année difficile qui s'annonce là, pour tout le monde qui est de près ou de loin lié au tourisme.
Mais c'est important les chiffres que tu donnes quand tu dis il y a 2 millions de personnes au pays qui dépendent de l'industrie du tourisme, parce que on peut regarder ça en tassant ça du revers de la main en disant de toute façon c'est juste les hôtels puis c'est juste les lieux très touristiques, mais c'est toute la chaîne, c'est tout l'effet domino que ça a sur l'ensemble, sur tout le reste de la population, tout le reste de l'économie. Mais ce que je trouve un peu particulier, c'est que il y a des gens de l'industrie du tourisme qui font appel à Ottawa et aux provinces aussi en disant écoutez, il faut réouvrir de façon sécuritaire parce qu'évidemment ça représente beaucoup de sous. Et par exemple, ils disent on devrait faire s'inspirer de ce qui se fait ailleurs dans le monde, avoir des tests de dépistage ou ouvrir des couloirs sécuritaires. OK, moi, je sais pas, là, mais l'idée qu'on réouvre les frontières ou qu'on repermette à des gens de l'extérieur de venir au pays, en particulier des gens des États-Unis, honnêtement, Jean-Michel, ça me fait capoter. Parce que...
Attends, là-dessus, on s'entend. Je suis d'accord avec toi. Moi... on ne peut pas rouvrir, et surtout avec nos voisins du Sud,
ben là,
qui sont des clients importants, mais on peut pas. On ne peut pas se permettre ça, et on ne peut pas se permettre ça tant que c'est pas réglé, qu'il n'y a pas de vaccin, ou au pire, qu'il n'y a pas de test qui, dans l'heure après, nous dit clairement à 100% la personne a la COVID ou non. Parce que sinon, tu as raison, là-dessus on s'entend complètement, on ne peut pas rouvrir les frontières, on ne peut pas. On ne peut pas. On contrôle ça et on regarde ce qui se passe aux États-Unis. On ne peut pas redevenir un autre État américain.
Ben non, c'est ça. On ne veut pas que les gens qui ont fait le party à Miami, à bouche que veux-tu, puis à se frencher sur la plage, que ces gens-là se disent « Hey, on ne peut plus faire le party sur la plage. On s'en va à Montréal aller dans les bars de danseuses puis boire de l'alcool parce que chez eux, l'âge pour consommer de l'alcool, c'est 18 ans, c'est pas 21 ans. » On ne veut pas voir ces gens-là chez nous. Même si le prix économique à payer est très élevé, tu comprends? Moi, je comprends l'industrie du tourisme de dire, ben écoutez, on va tous crever d'un point de vue économique, mais c'est pas mieux si on crève tous parce qu'on meurt tous de la COVID, là?
T'as raison, puis je pense que même au niveau chiffres, au niveau des finances publiques et du fardeau, d'avoir des bêtes. Puis même au niveau éthique, moral, etc., d'avoir des gens malades, c'est bien plus grave que de passer à travers une crise économique très dure, mais au moins où les gens sont en santé. Là-dessus, on s'entend. Puis je suis d'accord, c'est pour ça qu'on peut pas rouvrir, même avec certains assouplissements, présentement, surtout par notre position, là, on est dans une situation fragile, on a bien fait ça comparé à nos voisins du Sud, mais c'est loin d'être fini et on ne peut pas rouvrir comme si de rien n'était. Ça, je suis d'accord. Puis même en assouplissant un peu les règlements, là, je pense pas qu'on est prêt de faire ça.
Mais tu vois, tu disais, et avec beaucoup de justesse, que cet été qu'on vient de traverser, par la force des choses, il y a plein de gens qui ont comme découvert le Québec, qui se sont rendus compte que, oui, c'est le fun d'aller en Toscane, mais quand tu vas dans certains coins de l'Estrie, ben il y a des vallées, il y a des endroits, ça n'a rien à envier au plus beau paysage de la Toscane. Tu sais, on est comme redécouvert. Tu sais, c'est comme quand t'es avec ta blonde depuis très longtemps, puis que tu regardes les pitounes passer, ben là, tu peux plus accéder aux pitounes. Fait que tu te rends compte que finalement, ta blonde est belle en mots, t'as dit.
Bon. C'est une belle analogie.
Une belle analogie.
Oui, d'accord, je pense que... Oui,
mais ce que je voulais dire, c'est que ça s'est passé comme ça cet été. Mais moi, ce que j'imagine, puis je sais pas si tu vas me suivre là-dessus, Jean-Michel, c'est que il y a un autre problème qu'on a au Québec. C'est que l'hiver, tout le monde part dans le sud et on n'a pas suffisamment, selon moi, développé au Québec le tourisme d'hiver. Toutes les activités qu'on peut faire l'hiver, on n'a pas beaucoup développé ça et je me demande si cette année, ça ne va pas être ça la survie de l'industrie du tourisme au Québec, de réinventer, je sais que les gens n'aiment pas ce mot-là, de réinventer des façons de faire du tourisme quand il fait moins 20, moins 30 puis moins 40.
Je pense que c'est la seule façon que ces industries-là vont survivre parce que on sait, en hiver, il y a beaucoup de touristes américains, il y a beaucoup de touristes européens, français, il y a beaucoup même de touristes mexicains. On oublie, par exemple, qu'à Tremblant, il y a beaucoup de Mexicains qui vont à Tremblant. Il faut qu'on redécouvre notre Québec. Il faut aussi, je pense, qu'on améliore certaines infrastructures au niveau des centres urbains. Il y a de très belles choses au Québec, mais il y a amélioration à avoir au niveau des restaurants, des hôtels, des infrastructures, de la facilité d'accès. Et c'est drôle, je sais que c'est un deuxième sujet, mais aussi de l'Internet, je veux dire.
Oui, ben vas-y, oui.
J'étais au chalet et puis il y a beaucoup cette discussion depuis peu du gouvernement. Bon, il faut se réinventer, il faut faire du télétravail, il faut valoriser les régions. Hein? On entend toujours son
vœu. Absolument.
Que les gens restent en région, que les gens ne viennent pas juste dans les centres urbains. Et moi, ça me fait rire parce que moi, j'ai un exemple, là, je vais te le dire. Là, je suis à 95 minutes du centre-ville de Montréal. J'ai un modeste chalet dans Lanaudière.
D'accord.
Je suis entouré de trois grandes villes qui sont Saint-Alexis-des-Monts, Saint-Gabriel-de-Brandon et Louisville. Donc, je suis au milieu de ce triangle-là. Et j'ai un horrible Internet et je n'ai pas le choix. C'est-à-dire que le seul Internet que je peux avoir, c'est celle du satellite ExploreNet Shaw. ça me coûte 123 $ par mois.
Ouch.
Seulement l'Internet. Je n'ai droit qu'à 100 gigs. Là, le français et l'anglais, mon download est lent. Mon upload, mon téléchargement pour données est horrible, horrible, horrible. Je ne peux pas travailler. Je ne peux pas faire de Zoom. Je ne peux pas envoyer des fichiers vidéo. Je ne peux pas travailler. Hier, une journée, il pleuvait. Je n'ai même pas d'Internet.
T'es
d'Internet
pas sérieux.
Et à cause de la pluie. Oui, et ça, et là, tu sais, le Québec et le Canada, comment on se vante d'être le plus beau pays du monde? On est donc formidable. Et moi, ça me fait capoter que des pays, par exemple, comme la Roumanie, faites vos recherches. Allez voir la Roumanie, là, c'est un pays du bloc de l'Est, des méchants communistes. Et aussi, ce qui met aussi comme, oh, là-bas, il n'y aura jamais l'efficacité de notre monde de l'Ouest, parce qu'il n'y a pas de compétition. Hein. Le capitaliste, c'est la compétition, et la compétition force le meilleur à sortir du lot, alors que le communiste, c'est pas ça. Ben, je m'excuse, mais faites vos recherches, l'Internet est détruit notre Internet canadien.
Ah, oui.
Et c'est vraiment installé. On a installé de la fibre optique, on a fait des politiques gouvernementales pour vraiment faire un réseau. C'est certain que, bon, je me fais un peu l'avocat du diable, le réseau canadien, un des défis, c'est que notre territoire est très, très grand. Mais quand je dis que je suis à 95 minutes et je n'ai pas d'autres accès, je ne peux pas avoir
non,
les autres grands fournisseurs, je trouve que le gouvernement du Québec et le gouvernement canadien, là, justement maintenant, dans ces moments où on se rend compte que l'Internet est important pour le travail et des fois le seul lien pour continuer à travailler à la maison, je ne comprends pas comment il n'y a pas plus d'énergie à régler ces problèmes. Je parle
mais tout à fait.
À 8 heures de route au milieu de nulle part. Je
mais non,
suis
mais
à
écoute,
95 minutes du centre-ville.
Écoute, je vais te donner un autre exemple. Je vais te donner un autre exemple qui, celui-là, est relié, en effet, plus directement, disons, au domaine du tourisme. Mais cet été, avec M. Durocher, alias Richard Martineau, on a beaucoup, tu sais, on s'est beaucoup promené. On est allé dans Charlevoix, on est allé dans les Laurentides, on est allé à Québec. Bon, on s'est pas mal promené et à un moment donné, on a loué pendant une semaine un chalet dans les Laurentides. Pour pas le nommer, c'est le chalet d'Adamo, l'ancien d'Occupation Double. Bon, on arrive là, on est super excités, c'est absolument magnifique. Écoute, c'est à La Conception. Écoute, un Internet pourri. Donc, on n'est pas une heure et demie du centre-ville de Montréal, on est à trois quarts d'heure du centre-ville de Montréal. Et puis, la nature est magnifique, puis tout ça, incapable de travailler. On pouvait pas, on devait faire une chronique pour Cube Radio. Écoute, il a fallu qu'on branche notre Internet sur notre cellulaire, donc sur notre bande passante, parce que l'Internet dans le chalet ne fonctionnait pas. C'était pitoyable, on pouvait rien écouter, on pouvait pas envoyer nos chroniques, on pouvait rien faire. Et donc je me disais, ben comment veux-tu deux choses, comment veux-tu développer le tourisme, parce qu'aujourd'hui tout le monde travaille tout le temps. Tu sais, c'est plus vrai qu'on travaille de 9 à 5, on travaille le soir, on travaille la fin de semaine. Alors, comment veux-tu faire ça? Et comment veux-tu, en effet, encourager le supposé télétravail? Écoute, on n'aurait jamais pu faire un Zoom, là. Mais on n'était pas perdu dans le fond des bois. Et des pays comme, par exemple, moi, ma sœur, chaque année, elle va en Inde parce qu'elle travaille à un projet bénévole là-bas. Écoute, ma sœur est dans le fin fond d'un pays, dans le fin fond d'une province, de l'Uttar Pradesh ou je sais pas trop quoi. Écoute, je lui parle, elle m'envoie des trucs, des vidéos par Internet, ça fonctionne comme le tonnerre de Dieu. Mais à La Conception,
exactement,
ça marche pas.
Exactement, tu dis ça parce que je prends toujours l'exemple d'année dernière où j'ai pris mon année sabbatique et j'étais au Vietnam, j'étais dans des endroits perdus du fin fond du Vietnam, du fin fond de la Thaïlande, des pays qui, si on regarde un peu de haut en disant que c'est des pays tiers-mondistes qui sont en train de s'en sortir, ben en tout cas, au niveau des technologies, ils nous détruisent. Et comme tu dis, là, La Conception, puis où je suis là, à Saint-Didas ou Saint-Didas, comme certains disent, là, on n'est pas loin. Et donc, c'est dans la grande boucle de la grande banlieue montréalaise,
ouais.
Ça. Je ne comprends pas, ça me fait halluciner qu'il y a
moi
pas
aussi.
Plus d'énergie et de volonté politique et de volonté aussi des grands fournisseurs de se mettre ensemble et de dire, regardez, surtout dans l'année qu'on a eue, il faut qu'on règle ça là, d'ici un ou deux ans, là. Ça, il faut que ça arrête, parce que sinon, là, on va arrêter de se vanter d'être si ça. Et comme tu dis, même au niveau du tourisme, maintenant, c'est vraiment un outil indispensable pour rejoindre ta famille, pour faire des recherches. Quand tu te promènes quelque part au Québec, puis tu veux regarder ton Google Maps ou quoi que ce soit, ou des recherches sur les restaurants, t'as besoin d'Internet. Je
absolument.
Veux dire, on est rendu là.
Puis écoute,
c'est
l'éducation.
Indispensable.
Et pense à l'éducation,
absolument,
Jean-Michel.
Absolument.
Là, il y a plein d'enfants qui
exactement.
Ne pourront pas aller à l'école parce qu'ils ont la morve au nez puis ils se font renvoyer à la maison. Donc, supposément qu'ils vont devoir faire l'école à la maison. Eh, hey, bonne chance, les amis. Je dirais, j'imagine, un enfant à Saint-Didas ou un enfant à La Conception, mais bonne chance pour pouvoir suivre les cours sur Internet. Écoute, Jean-Michel, T'es en forme, hein? T'as pris quoi? Toi, t'es un spécialiste du café, t'as pris un espresso extra fort ce matin?
Et pour te parler, comme j'ai pas le choix, ben, je suis à Montréal. Donc, je sais que mes lundis, dans ma
T'es sérieux?
Semaine, semaine, je suis à Montréal. Et j'ai pas le choix, mais c'est correct. Parce que, dans le fond, ça me permet de faire les deux. Hier, j'étais au chalet, mais je suis rentré hier soir. Donc, au moins, on peut bien se parler. Parce que sinon, tu n'entendrais qu'une voix échevelée et ça serait pénible. Alors, content de te parler.
C'est fou pareil. Puis, c'est fou pareil. Que t'es obligé de venir à Montréal pour me parler alors que tu pourrais rester dans le confort de ton chalet. Mais ça en dit long, en effet, sur l'état de notre développement. Puis, un dossier que Michèle Blanc, qu'on salue vraiment, elle en a fait son cheval de bataille. Elle s'arrache les cheveux. Et ce qui est triste dans toute cette histoire-là, c'est qu'elle en avait fait un programme, un plan numérique pour quand elle était candidate au Parti québécois. Et je veux dire, ça aurait été le fun que quelqu'un reprenne la balle au bon. Et de ce côté-là, la CAQ, c'est un petit peu décevant. Merci beaucoup, Jean-Michel. Puis on se retrouve lundi prochain. C'est plate, hein? Tu vas être obligé de venir à Montréal. Obligé de venir à Montréal pour nous parler.
Bon lundi, bonne journée.
Oui, bye merci bye. Jean-Michel.